RCF.
On ouvre le dossier de la rédaction à 7h13 et dans ce dossier on va revenir sur ce matin le meurtre d'Éric Masson, ce policier d'Avignon qui a été tué il y a tout juste une semaine au cours d'une intervention près d'un point de trafic de stupéfiants. De quoi raviver le débat sur la législation vis-à-vis des drogues et notamment du cannabis. C'est ce qu'on va voir avec vous, Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Simon. Effectivement, le Premier ministre a d'ailleurs évoqué le sujet hier lors de l'hommage national rendu à Éric Masson. Honorer sa mémoire, c'est affirmer haut et fort que l'État se donnera tous les moyens de prévenir et de réprimer toute forme de violence, à commencer par le trafic de stupéfiants. Ce sont les mots de Jean Castex. Alors ça ne veut pas dire que les agressions contre les forces de l'ordre sont nécessairement liées à la drogue. Mais ce qui est sûr, c'est que ce trafic engendre davantage de violence, d'après Jean-Baptiste Perrier, professeur à l'université d'Aix-Marseille et directeur de l'Institut des sciences pénales et de criminologie.
Si, hélas, on prend les derniers actes commis contre des policiers ou gendarmes, il n'y avait pas de rapport avec le trafic du stupéfiant. On pense à l'attaque de Rambouillet. Et puis, fin 2020, il y avait ce forcené dans le Puy-de-Dôme qui avait tué 3 gendarmes sur fond de, sans doute, violence familiale. Donc on voit que la violence contre les policiers n'est pas nécessairement liée au trafic. Ce qu'on observe, en revanche, c'est que dans le cadre du trafic de stupéfiants, il y a des comportements plus violents. On voit qu'il y a, par exemple, plus d'armes qui circulent en lien avec le trafic de stupéfiants, qui sont aussi possédées par des personnes peut-être moins élevées dans la hiérarchie du trafic. Les personnes qui participent à ces trafics sont également plus jeunes. Et on sait que d'une façon générale, l'âge est un facteur aggravant, si je veux dire, c'est-à-dire qu'au plus on est jeune, au plus on est impulsif, au plus on peut faire des actes irréfléchis, au plus on vieillit, au plus on s'assagit. En tout cas, sur la délinquance, c'est très observable. Il y a un âge de la délinquance qui est autour de 18-25 ans. Ce rajeunissement, cet armement des personnes qui participent au trafic du stupéfiant se retrouve nécessairement dans des faits de violence qui peuvent être plus importants.
Alors face à cette violence, le Premier ministre a rappelé que la réponse pénale devait être au rendez-vous. Jean Castex a d'ailleurs promis plusieurs mesures au syndicat de police et concernant la lutte anti-drogue. La dernière nouveauté remonte à un peu plus de 6 mois avec la généralisation d'une amende forfaitaire de 200 euros pour usage de stupéfiants. Mais Thierry Tintoni-Merclen constate que certains agents des forces de l'ordre n'approuvent plus cette méthode répressive. Il était lui-même capitaine de police à la retraite depuis presque 3 ans et cofondateur du collectif Police contre la Prohibition.
On a fait un sondage. Au total, on a eu 300 personnes. On sait que c'est des policiers ou des gendarmes. 53% ont répondu que la répression n'est pas dissuasive et n'a aucun effet sur la consommation de drogue. 45% pensent que le temps consacré à traiter ce délit est excessif. 60% des policiers et gendarmes interrogés estiment que la régulation contrôlée par l'État du marché du cannabis serait une bonne solution pour lutter contre le trafic, restaurer la sécurité, la tranquillité publique. Donc nous, on a ce sondage-là qui vaut ce qu'il vaut. On a des remontées, des gens qui nous envoient des courriers sur les adresses mail, qui sont dans toute une série de services, sécurité publique, en police judiciaire, et qui nous disent « bon, on a la marre, quoi. Ça sert à rien ». C'est vider l'océan avec une petite cuillère. Il faut complètement changer la perspective.
Alors justement, pour changer de perspective, certains parlementaires vont assez loin.
Ouais, les députés, membres d'une mission d'information sur les différents usages du cannabis, viennent de rendre un rapport dans lequel ils constatent un échec de la politique répressive et la solution, d'après Caroline Janvier, députée de La République En Marche dans le Loiret et rapporteur du texte, eh bien, c'est tout simplement d'encadrer la légalisation du cannabis.
Il faut que l'État mette en place les conditions de l'émergence d'un marché qui soit suffisamment concurrentiel pour détourner les consommateurs du marché noir. Il faut que l'État encadre la production, permette la traçabilité de ce qui est produit, de ce qui est vendu et s'assure d'un respect de la non-vente aux mineurs, avec beaucoup plus de contrôle que ce qui est fait par exemple actuellement pour le tabac. Mais il ne faut pas que l'État soit dans une réglementation trop forte et un niveau de taxation qui soit trop fort, parce que cela empêcherait l'émergence d'acteurs privés qui viendraient concurrencer ce que proposent aujourd'hui les dealers. Il y a aussi des mécanismes qui permettent de réinsérer les dealers, et donc il y a la possibilité par exemple d'amnistier les petites mains des deals, donc non pas les têtes de réseau, mais les personnes qui finalement font le guet, parfois des 12 ans, des 14 ans. Donc il y a des programmes qui permettent soit d'amnistier, mais aussi de travailler sur des programmes de réinsertion. Et il y a enfin, troisième outil, qui est le fait, à partir du moment où l'État organise ce marché-là, eh bien il peut taxer, comme il le fait pour le tabac et pour l'alcool, percevoir des recettes fiscales. Et cet argent-là peut être investi dans 2 choses, des politiques de santé publique et de prévention, et dans les quartiers, pour dire à nos jeunes qu'il existe d'autres perspectives que ces trafics.
Caroline Janvier qui s'appuie sur des dizaines d'heures d'audition, mais aussi sur des exemples de pays étrangers.
On a comparé l'État de Washington qui a légalisé avec d'autres États américains et on a vu que la légalisation de la consommation de cannabis avait causé une diminution des viols de 30% et des vols de 20%.
Alors sans aller jusqu'à la légalisation, Jean-Baptiste Perrier, le directeur de l'Institut des sciences pénales et de criminologie, elle propose de son côté une solution à mi-chemin, la dépénalisation.
La légalisation, c'est l'organisation dans un circuit légal du commerce du cannabis. Et la dépénalisation, c'est simplement le fait de dire que la consommation n'est plus une infraction. C'est-à-dire que ça peut sembler être hypocrite, mais c'est une solution intermédiaire qui, ça n'est pas autorisé, mais on ne sanctionne pas ceux qui le font. En France aujourd'hui, on a le système en matière de consommation de stupéfiants le plus répressif d'Europe. Et on a également le plus grand nombre de consommateurs. Donc on voit bien que ça n'est pas efficace. Lutter contre la consommation de stupéfiants, cela implique de mobiliser des moyens, surtout des moyens humains, des policiers. Et ce temps qu'ils consacrent à la lutte contre le cannabis, c'est du temps qu'ils ne consacrent pas à lutter contre les trafics. Donc on doit pouvoir être pragmatique sur ces sujets, se dire que quand on dresse 70 000 amendes forfaitaires pour de la consommation de stupéfiants, c'est une goutte d'eau dans l'océan. On estime qu'il y a 5 millions de consommateurs, donc ça fait moins de 2%. Ça ne dissuade pas la consommation, et puis surtout, ça n'est pas efficace pour faire baisser les trafics. En revanche, si on se concentre sur la lutte contre les trafics, c'est pas un cadeau qu'on leur fait, au contraire, et bien là, peut-être qu'on aura des résultats plus efficaces, parce qu'on aura vraiment fait le choix de focaliser l'énergie sur le trafic des stupéfiants, et en laissant peut-être de côté pour l'instant la consommation.
C'est une solution également proposée par le collectif Police contre la prohibition, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord.
Et non, par exemple, Rémi Delatte est plutôt opposé à la dépénalisation ou la légalisation du cannabis. Le député Les Républicains de la Côte d'Or fait partie de la même mission d'information que Caroline Janvier. Il partage le constat sur l'échec de la politique répressive, mais il n'en tire pas les mêmes conclusions.
On ne peut pas laisser penser qu'on banalise la consommation, que voilà, c'est devenu possible, d'autres l'ont fait, etc. Deuxième effet délétère qu'on observe, c'est bien sûr tous les risques liés à des comportements perturbés, de violence, avec toutes les conséquences sur la sécurité et sur la tranquillité publique. Et puis, bien sûr, tout ce qui est lié à l'émergence de réseaux, de trafic, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants, et qui, manifestement, défient l'État, défient la République. Et ça, c'est de toute façon une voie dans laquelle la France ne peut pas s'engager. Alors, pour autant, je ne suis pas de ceux qui disent « il faut rien faire, on laisse en état, ça va bien comme ça ». Je suis conscient qu'on doit appréhender autrement le problème de consommation de cannabis, mais il faut le faire avec humilité, pas dire c'est simple, c'est comme ça, c'est décidé. Il ne faut pas le faire donc dans la précipitation. Le président de la République a proposé qu'il y ait un large débat avec la nation sur le sujet. Je crois qu'il a raison. C'est un sujet de société sur lequel il faut accepter, le concerter et voir ensuite quelles orientations on devra prendre.
Emmanuel Macron a effectivement annoncé qu'il voulait organiser un grand débat national sur le sujet, mais sans plus de précision pour l'instant.
Le dossier qui a été signé ce matin par Clotilde Dumay. Merci beaucoup, Clotilde.